بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، chers frères, ce soir est déjà la 21e nuit du mois de Ramadan, qui est la première des 10 dernières nuits de ce mois béni. Et ces 10 nuits comportent de nombreux mérites et certaines spécificités que nous allons voir dans cette assise, incha'Allah ta'ala. On compte parmi ces spécificités que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prodiguait des efforts durant ces nuits qu'il ne prodiguait pas en d'autres nuits. C'est ce que rapporte l'imam muslim, rahimahullah, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Et dans les deux recueils authentiques, elle a dit, radiyallahu ta'ala anha, lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, serrait son izar, passait sa nuit en adoration et réveillait sa famille. Et dans un autre hadith, rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, elle a dit, radiyallahu ta'ala anha, durant les 20 premières nuits, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, joignait entre la prière et le sommeil. Puis lorsque venaient les 10 dernières nuits, il retroussait ses manches et serrait son izar. C'est-à-dire qu'il multipliait les efforts et passait la nuit entière dans l'adoration et se s'endormir. Ces hadiths sont une preuve évidente du mérite de ces 10 dernières nuits, en vue des efforts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prodiguait dans l'adoration durant celle-ci, comme il ne prodiguait durant aucune autre nuit. Et ceci englobe toute forme d'adoration, comme la prière, la récitation du Coran, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et son évocation, l'aumône et autres parmi les œuvres pieuses rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à sa parole, il serrait son izar, c'est-à-dire qu'il s'éloignait de ses épouses, et ce afin de se consacrer à la prière et à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il veillait toute la nuit en adoration, que ce soit dans la prière, la récitation, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le cœur, la langue et le corps. Et ceci, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en retraite pieuse dans la mosquée durant les 10 dernières nuits, comme on va le voir par la suite, incha'Allah ta'ala. Et ce car ces nuits sont des nuits immenses, et d'une grande importance. Il y a durant celle-ci la nuit du destin, celle qui vaut plus de 1000 mois. Il convient donc aux musulmans de la rechercher durant ces nuits en se consacrant à l'adoration et à ce qui l'aide à cela, comme la prise du repas de la rupture ainsi que du suhur. Et ces hadiths, ils prouvent également le mérite de ces nuits à travers la parole de Aïcha, qu'Allah l'agré, qui a dit « Et il réveillait sa famille ». C'est-à-dire qu'il les réveillait pour la prière, il les réveillait pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce afin qu'ils saisissent cette occasion immense d'accomplir le bien durant ces nuits bénies. Et ceci fait partie de son bon conseil envers sa famille, sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons en lui un excellent modèle à suivre. Le musulman, il doit donc faire des efforts durant ces nuits, mais il doit aussi encourager sa famille et encourager ses proches à profiter de cette occasion, et il ne doit pas restreindre le bien à sa propre personne. Il convient donc à l'homme de s'entraider avec son épouse durant ces nuits, et également d'encourager les enfants à multiplier les œuvres pieuses, et ce afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir son agrément. Tu dois être conscient que cette occasion est une occasion immense qui ne se représentera peut-être jamais. Tu ne sais pas si tu seras encore du nombre des vivants l'an prochain. Tu dois donc profiter de ces quelques nuits et les consacrer à l'adoration de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui ne t'a créé que pour que tu l'adores. C'est donc une grave erreur pour le musulman de perdre ces instants précieux dans des futilités ou autres distractions, ou pire encore, dans les péchés, comme ceux qui passent ces nuits devant la télé, les jeux vidéo ou autre chose, parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit, qui ne te sont d'aucune utilité ici-bas et seront pour toi source de regrets, yom al-qiyama, au jour de la résurrection. Tu dois être conscient que le diable, ainsi que son armée, prodigue aussi des efforts pour détourner le musulman du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in. Sur mes serviteurs, Tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. L'homme doué de raison, il ne doit donc pas prendre le diable pour allié en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il sait que le diable est son ennemi déclaré. Le prendre pour allié est donc en opposition avec la raison, mais aussi avec la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: "Afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala." Allez-vous le prendre lui ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi alors qu'ils sont vos ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: "Ya ayyuha an-nas, inna wa'da Allahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير." Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, c'est-à-dire le diable, et que le grand trompeur ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Le musulman, il doit donc prendre conscience de l'importance de lutter contre son âme et de lutter contre le diable afin de se consacrer totalement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces nuits bénies. Et parmi les spécificités de ces nuits, il y a l'i'tikaf, la retraite pieuse dans la mosquée, qui consiste à rester dans la mosquée afin de se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf durant les 10 dernières nuits de Ramadan, et ce jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. L'i'tikaf est donc une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed rahimahullah a dit: "Je ne connais personne parmi les savants qui divergent quant au fait que l'i'tikaf est une sunna." Et l'i'tikaf, il comprend certaines règles qui sont mentionnées dans le livre de fiqh que nous ne pourrons pas mentionner ici. On compte aussi parmi les spécificités de ces 10 dernières nuits que se trouve en elle la nuit du destin. La nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. Cette nuit est une nuit bénie, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrite dans son livre: "Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka." Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. C'est une nuit bénie pour les nombreux biens, les nombreux mérites et les nombreuses bénédictions qu'elle comporte. Et parmi ces bénédictions, le fait que c'est en cette nuit que le Coran est descendu. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: "Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr." Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Al-Qadr, ici, a le sens de la grandeur et la noblesse, car cette nuit est d'une grandeur élevée et d'une noblesse immense. Et cela a aussi le sens du décret et du destin, car c'est durant cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qui se passe durant l'année. Il a ensuite dit: "Laylatul qadri khayrun min alfi shahr." La nuit del qadr est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire en termes de mérite, de valeur et de récompense. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Quiconque passe la nuit du destin en veillée, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés." Et sa veillée, elle se passe dans les œuvres de bien, comme la prière, la lecture du Coran, l'évocation d'Allah et autres œuvres parmi les adorations qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient donc aux musulmans de prodiguer des efforts pour rechercher la nuit du destin durant les 10 derniers jours de Ramadan, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce en recherchant la récompense et la rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si sa veillée, avec foi et en espérant la récompense, elle coïncide avec cette nuit, avec la nuit du destin, il obtiendra alors sa récompense, même s'il n'en a pas connaissance, même s'il n'en a pas connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala a ensuite dit: "Tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha." Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit. Les anges sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils accomplissent son adoration nuit et jour. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet: "La yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-layla wa an-nahar. La yafturun." Ils ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent jamais. Les anges descendent donc sur terre durant la nuit du destin et ils descendent avec le bien, avec la bénédiction et la miséricorde venant d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Wa ar-ruh, c'est Jibril alayhi salam. Et Allah a spécifié son nom pour sa noblesse et son rééminent auprès de lui. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, salamun hiya, elle est paix et salut. C'est-à-dire que la nuit du destin est une nuit de paix et de salut pour les croyants. Car nombreux parmi eux sont affranchis du feu durant cette nuit et sont donc préservés de son châtiment. Hatta matla' al-fajr, jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est-à-dire que la nuit du destin, elle se termine à l'apparition de l'aube. Tu as donc cette opportunité de pouvoir te consacrer à l'adoration de ton Seigneur jusqu'à l'aube. Non pas comme le font certaines personnes qui s'arrêtent de vrai et retournent aux futilités après l'accomplissement de la prière de nuit. Même si tu as terminé de prier, tu peux encore lire le Coran, faire du dhikr, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'accorde de ses bienfaits ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et cette sourate, elle met donc en évidence différents mérites de cette nuit. Premièrement, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait descendu le Coran durant celle-ci, et ce afin de guider les hommes et qu'ils obtiennent le bonheur ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Deuxièmement, elle est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire qu'une œuvre accomplie durant cette nuit est meilleure qu'une œuvre accomplie durant 1000 mois. C'est donc un mérite immense et une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Troisièmement, les anges descendent durant cette nuit et ils ne descendent, comme on l'a dit, qu'avec le bien, la bénédiction et la miséricorde venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, elle est paix et salut, car nombre de serviteurs sont affranchis du feu en cette nuit. Pourquoi ? Par le grand nombre d'adorations et d'œuvres pieuses qu'ils accomplissent pour Allah subhanahu wa ta'ala durant celle-ci. Cinquièmement, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait descendu une sourate entière récitée jusqu'au jour de la résurrection, démontrant les mérites de cette nuit. C'est donc une nuit immense et une occasion que ne doit pas rater le serviteur, mais il doit plutôt faire des efforts pour passer cette nuit entière dans l'adoration. Et après avoir pris connaissance de ses mérites, le musulman, il souhaite donc avoir connaissance de cette nuit. Quand a-t-elle lieu afin de pouvoir l'atteindre? On sait avec certitude que cette nuit a lieu durant le mois de Ramadan, car Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran durant celle-ci et il nous a informé qu'il a descendu le Coran durant le mois de Ramadan. On sait aussi qu'elle a lieu durant les 10 dernières nuits du Ramadan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Recherchez la nuit du destin durant les 10 dernières nuits de Ramadan ». Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On sait aussi qu'il y a plus de probabilité qu'elle soit durant une nuit impaire, et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Recherchez la nuit du destin durant les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits de Ramadan ». Et le hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et il y a aussi d'autres hadiths qui prouve qu'il est plus probable qu'elle soit durant les 7 dernières nuits et que la nuit la plus probable soit la 27e nuit. Malgré cela, il est confirmé qu'elle n'est pas fixe, mais qu'elle se déplace durant les 10 dernières nuits. Elle a en effet eu lieu la 21e nuit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les nuits impaires sont donc les nuits les plus propices et la 27e nuit est la plus propice à cela. Et quiconque fait des efforts durant toutes les 10 dernières nuits dans la prière, le Coran, l'invocation et autres œuvres de bien, il aura sans aucun doute atteint la nuit du destin, Inch'Allah ta'ala. Quant à ceux qui ont la conviction que la nuit du destin a lieu en une nuit déterminée et qui font des efforts durant cette nuit-là seulement, puis se laissent aller dans la paresse les autres nuits, alors ceci est une erreur pour 2 raisons. Premièrement, car ceci est une information de l'invisible que l'on ne peut affirmer avec certitude. On ne peut affirmer avec certitude que la nuit du destin a lieu en telle ou telle nuit. Deuxièmement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ces signes durant une année. Il a vu les signes de la nuit du destin. Malgré cela, il a continué sa retraite pieuse et il a continué ses efforts jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Par sagesse et miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a donc dissimulé cette nuit et elle n'est pas connue de ses serviteurs. Et ceci est une sagesse afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala reconnaisse celui qui désire vraiment le bien de celui qui ne le désire pas. Car celui qui désire le bien est facile pour lui. Il est facile pour lui de veiller pendant 10 nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, voire même 20 nuits au plus encore, pour rechercher la nuit du destin. Car celui qui désire vraiment une chose, il fait les efforts pour l'obtenir. Quant à celui qui ne désire pas le bien, il sera pris de paresse et il dira que comme il ne connaît pas précisément cette nuit, il n'y a pas de raison à ce qu'il se fatigue. Allah subhanahu wa ta'ala distingue donc ainsi ses serviteurs qui désirent vraiment le bien de ceux qui ne le désirent pas. Et c'est une miséricorde, car cela incite les serviteurs à multiplier les adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car si la nuit du destin était connue, combien de nuits les gens auraient accompli des efforts? Durant combien de nuits ils auraient veillé? Ils ne réveillaient que durant une seule nuit. il se serait contenté de faire des efforts durant seulement une seule nuit. Mais comme elle est inconnue, alors ils font des efforts durant les 10 dernières nuits. Et ils augmentent par cela leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne néglige rien parmi les œuvres de bien. Wallahi, l'un d'entre nous espérera tellement l'ajout du poids d'un petit grain à ses bonnes actions lorsqu'il sera mort. Et on ne sait pas à quel moment cela arrivera, car on ignore l'heure de notre mort. On doit donc s'efforcer de faire des œuvres tant que nous sommes encore vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit « Il n'y a pas une personne qui meurt sans qu'elle ne regrette. Si elle était bienfaisante, elle regrettera de ne pas avoir ajouté à sa bienfaisance. Et si elle était malfaisante, elle regrettera de ne pas s'être repentie. » On ne doit donc négliger aucune œuvre de bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Préserve-toi du feu, même si ce n'est que par une demi-date, c'est-à-dire par une demi-date donnée au aumône. » Enfin, parmi les œuvres recommandées durant cette nuit, il y a l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui a dit « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. » Oh Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Et il y a parmi les enseignements tirés de ce hadith le mépris de l'homme pour lui-même. Car lors de cette nuit, il aurait été probable que l'homme demande un bien ou que l'homme demande une grâce. Au lieu de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné la demande de pardon. Une demande d'une personne ayant commis des excès. Une demande d'une personne fautive envers elle-même qui a été injuste envers sa propre personne. Tu dis donc, oh Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon. Alors pardonne-moi afin que tu méprises tes œuvres. C'est-à-dire que tu ne penses pas que tes œuvres sont une faveur de ta part envers ton Seigneur. Tu dois plutôt être conscient que ceci est une faveur envers toi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah voulait, il t'aurait égaré comme il l'a fait pour d'autres. Mais la guider est une faveur de sa part envers toi. Alors ton œuvre n'est pas une faveur de ta part envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est plutôt une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi. Tu dois donc louer Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait et être reconnaissant envers lui et dire « Louange Allah qui nous a guidés à ceci, nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. » Et avant de terminer, j'aimerais attirer votre attention au sujet de messages qui circulent sur les réseaux sociaux ou autres ces jours-ci. Et on a vu dans la précédente assise le danger et la gravité du mensonge, surtout s'il concerne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce message n'est autre, un message qui incite les musulmans à donner durant chaque nuit une aumône de 1 ou 2 euros, à accomplir durant chaque nuit, durant ces 10 dernières nuits, une prière de 2 unités, à faire durant chaque nuit telle ou telle invocation ou tel acte. Ceci n'a aucun fondement dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, les œuvres, pour être acceptées de les serviteurs, elles doivent être basées sur deux piliers immenses qui sont la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, comme cela est rapporté par Aïcha radiallahu ta'ala anha, « Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, son œuvre sera rejetée. » Son œuvre sera rejetée. De plus, ce message, en plus d'être contraire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il incite les musulmans à accomplir peu d'œuvres, à accomplir peu d'œuvres durant ces 10 dernières nuits. Il dit dans son message, « Donne une aumône de 1 ou 2 euros chaque nuit, accomplis 2 unités de prière. » Alors que l'on vient de voir les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il multipliait les efforts durant ces nuits, qu'il faisait ce qu'il ne faisait pas durant d'autres nuits que celles-ci. Il veillait toute la nuit en adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peux-tu donc inciter les musulmans à ne donner qu'une petite aumône, à ne faire que 2 unités de prière, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a incités à veiller cette nuit en prière, et il nous a montré l'exemple dans cela, car c'est ce qu'il faisait, sallallahu alayhi wa sallam, et tout le bien réside dans le suivi de sa sunna. Tout le bien réside dans le suivi de sa sunna. Le musulman, il doit donc prendre garde à ces messages dangereux pour la religion du serviteur, même s'ils paraissent en premier lieu être une incitation au bien. Même s'ils paraissent en premier lieu être une incitation au bien, ils sont en contraire un appel à l'innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et à instaurer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas légiféré. Et certes, si c'était un bien, s'il y avait un bien dans ce type de recommandation, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait incité à cela. Et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum nous auraient incité à cela. Et les imams parmi les grands imams de la sunna, et les imams de l'islam nous auraient incités à ce genre d'acte. Or, ceci n'a aucune trace et aucune source parmi les paroles de nos pieux prédécesseurs. Rahimahumullahu ta'ala. Prenez donc garde à ces messages, prenez donc garde à ces innovations. Wallahu al-musta'an. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de ses grâces et ses bienfaits durant ces nuits. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'éveillé dans l'adoration et de nous compter parmi ceux qui veillent la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayran.